Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV et pour ce nouvel épisode de notre balado, notre podcast, eh bien j'ai convié celle qui occupait ce poste avant moi, Camille Anglade, ancienne chef du service politique de BFM TV, désormais éditorialiste politique sur BFM TV pour cette campagne électorale. Camille est partie vivre à l'étranger, mais nous lui avons demandé de revenir pour quelques moments forts de cette campagne présidentielle et donc à cette occasion, j'ai voulu enregistrer un épisode avec elle pour qu'elle nous livre son regard, elle qui est une journaliste politique d'expérience et qui en même temps aujourd'hui regarde la vie politique française avec un peu de distance depuis l'étranger, et qu'on parle ensemble de cette campagne étrange. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans de précédents épisodes, cette campagne atone, en tout cas pour l'instant. Et d'ailleurs, on va évoquer ensemble une formule qui a été utilisée il y a quelques jours par Brice Teinturier de l'Institut Ipsos. Il parlait de cette campagne comme d'une campagne téfale à laquelle rien n'accroche. Donc voilà, on va parler de tout ça avec Camille Anglade. Nous sommes le vendredi 4 février, ça veut dire que le choix des Français, le second tour de la présidentielle, c'est dans 79 jours exactement.
Bonjour.
Donc on va dire la vérité, tu viens de revenir, de remettre les pieds dans les bureaux de BFM TV il y a quelques minutes.
Exactement.
Ça faisait 18 mois que tu n'étais pas venu. Tu viens nous rejoindre pour des moments forts de campagne, donc dès ce week-end. Tu as passé combien d'années comme reporter politique, puis éditorialiste politique sur
10 ans de journalisme politique au quotidien.
Au quotidien. Et donc depuis 18 mois, tu as pris un peu de recul.
Mm-hmm.
Mais tu suis tout ça quand même
de loin, très près, oui. De la fois loin. De loin et de près, exactement.
Comment tu la regardes, cette campagne? Cette campagne bizarre.
Cette campagne bizarre met énormément de temps à démarrer et je sens déjà que ça interroge beaucoup.
Ouais.
Pourquoi elle met tant de temps à démarrer? Il y a des facteurs extérieurs et très rationnels, on va dire. Tout le monde parle du Covid, bien évidemment. De l'inflation aussi, peut-être. Il y a des éléments qui intéressent beaucoup plus les Français parce que on regarde tous les jours les effets de ces deux éléments, ouais. À la fois les cas contacts tous les jours ou les cas positifs. Et puis le plein à la pompe et l'argent qui manque chaque mois un peu plus.
Et toi, tu as l'impression que ça aspire l'oxygène médiatique ?
Complètement. Déjà, on ne parle pas que de la présidentielle, ouais. À l'antenne. Finalement, il y a beaucoup d'autres sujets. Et puis, ce nouveau sujet qui s'invite international, dont les Français n'ont pas encore peut-être tout à fait conscience, mais qui commence à prendre un peu d'espace politique et médiatique, c'est la guerre qui se profile ou qui menace, en tout cas, en Ukraine.
En Ukraine, oui.
Donc, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui font que ça ne prend pas cette fameuse campagne téfale. Même moi, j'ai entendu cette expression de là où je suis.
Ah, mais campagne téfale, on peut le dire. Donc, c'est Brice Teinturier, le patron, le directeur de Ipsos, qui a utilisé cette formule. Alors, moi, j'ai entendu pour la première fois sur France Inter, il y a quelques jours, peut-être qu'il l'avait utilisé ailleurs, qui dit que donc, cette campagne, c'est comme téfale parce que rien n'accroche.
Rien n'accroche.
Rien n'accroche. C'est-à-dire que les thèmes n'accrochent pas, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont dans l'actualité, qui occupent l'espace médiatique et le débat politique pendant quelques jours, mais ça disparaît. Et ce qui veut dire aussi avec Tefal, c'est que beaucoup de Français n'accrochent pas à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne s'intéressent pas tout le temps à la vie politique, une fois, d'une certaine manière, s'accrochent une fois tous les 5 ans, se raccrochent à l'actualité politique, au débat politique, au débat démocratique, et qui, pour l'instant, ne se raccroche pas.
Exactement. Alors, pourquoi il ne se raccroche pas ? Donc, il y a ces éléments extérieurs, mais il y a évidemment des éléments propres à la campagne également, qui expliquent le fait que ça n'accroche pas vraiment. Je te prends des exemples.
Vas-y.
Je me souviens de 2017.
Tu étais à BFM TV.
Exactement.
Et moi, j'étais un peu dans ton cas, j'étais loin, je regardais la campagne de loin.
Voilà, éditorialiste à l'époque. Alors, l'actu était complètement folle parce qu'il y avait les ennuis judiciaires de François Fillon, mais aussi des primaires qui avaient énormément mobilisé. 4 millions de personnes avaient participé à la primaire de la droite, plus de 2 millions à la primaire de la gauche. Ouais. Donc ça, c'était un élément. Il y avait un appétit. Le président sortant ne s'était pas présenté. Donc il y avait un espace et un suspense assez incroyable. Aujourd'hui, c'est sûr que le fait que Emmanuel Macron tarde à se présenter, empêche un peu cette campagne de démarrer. Mais il y avait un autre élément sur le fond. Les programmes, tu dis, aucune proposition n'accroche. Et c'est vrai qu'on se demande un peu ce que font les candidats. Alors, il y a des sorties tonitruantes d'un Éric Zemmour, d'un Emmanuel Macron qui emmerde les Français. Ça, ça accroche, finalement. C'est,
oui.
Voilà, mais sur le fond, ça veut dire quoi ? Pas grand-chose en termes de programme. Je me souviens quand même du revenu universel. Est-ce que ça te parle ?
Benoît Hamon,
il était vraiment pas très haut dans les sondages. Mais cette mesure avait fait énormément parler. C'était un peu le futur. On se projetait dans le monde et on était d'accord ou on n'était pas d'accord. Mais je me souviens très bien que tout le monde avait son avis sur le revenu universel.
Ouais,
et les jeunes, notamment. Et il manque un peu cette mesure phare, ce débat de société, alors qu'on est en plein dans quel passé, quel futur pour une France. Est-ce qu'on a besoin de revenir dans le passé avec Éric Zemmour, etc. Donc, soit ça n'a pas encore démarré, mais bon, on est quand même, début février, le revenu universel existait déjà en 2017.
Oui, Benoît Hamon avait déjà entamé sa chute. Dans
oui, exactement. Le pauvre, ça ne lui a pas porté, ça ne l'a pas porté dans les sondages, mais n'empêche qu'il avait réussi à projeter un peu de débat. Donc, ça manque d'idées nouvelles.
Ouais.
Et on se demande, par exemple, un Yannick Jadot. Tu vois, c'est une préoccupation. Je ne suis ni contre ni pour Yannick Jadot.
Ouais.
Vraiment, je n'ai rien personnellement contre lui. Mais quand même, l'environnement, c'est un enjeu majeur et une préoccupation des Français. Quoi qu'on en dise, les prix à la pompe, c'est lié au réchauffement climatique, etc. Bon, mais alors pourquoi il nous colle pas contre le mur avec une super proposition qui pourrait résoudre, je ne sais pas, ou en tout cas, là aussi, nous faire un peu rêver ou nous projeter dans l'avenir.
Et d'ailleurs, il sera face à BFM dans quelques jours. Yannick Jadot, on aura l'occasion de lui parler de tout ça.
Tu lui poseras la question.
Mais tu as raison.
Il y a une sorte d'atonie des concurrents aussi, des candidats.
Ouais. Mmh. Et même ceux qui réussissent ou qui semblent réussir une assez bonne campagne en termes de mobilisation, je pense à Jean-Luc Mélenchon, il y a du monde dans ces meetings, du monde dans ces réunions publiques, les grandes réunions publiques dont on a parlé dans plusieurs épisodes, la dernière à Nantes, mais aussi dans des réunions publiques plus petites, il en a fait une à Bordeaux, où ça débordait tellement qu'il a dû aller parler à des gens dans la rue. Donc il y a du monde qui vient. Et malgré tout, on ne voit pas dans les sondages, alors il reste le premier à gauche nettement et il distance les autres, mais on ne voit pas dans les sondages pour l'instant la transcription de sa mobilisation sur le terrain.
C'est vrai, et ça a de quoi décourager, j'imagine, les candidats en ce moment. Ça doit être assez dur.
Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi est-ce que les sondages ne sont pas plus hauts, alors qu'on voit la mobilisation sur le terrain.
Alors, il y a un mot, je pense, qui peut résumer un peu tout ça. C'est un mot qu'on entend beaucoup revenir, c'est lassitude.
Ouais.
Il y a une lassitude vis-à-vis de tout.
Oui, absolument.
Du virus, peut-être de l'hiver un petit peu, de la crise, mine de rien. Tu vois aussi ce décalage entre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui répète en permanence qu'on est sorti de la crise, que tout va bien, que vraiment ce gouvernement a réussi, alors que dans le porte-monnaie à la fin du mois, ça ne se voit pas, même si le chômage baisse, même si certains indicateurs sont extrêmement positifs. Donc il y a une espèce de lassitude aussi par rapport à cette différence entre le discours politique et le ressenti des gens chaque jour dans leur vie.
Ouais.
Lassitude vis-à-vis du Covid, et puis lassitude peut-être vis-à-vis de ses candidats. En 2017, le match le casting, si je puis dire, était nouveau.
Mmh.
Un petit peu quand même, on avait François Fillon, on avait évidemment Emmanuel Macron. Là, à part Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, c'est sa troisième campagne, Marine Le Pen aussi. Emmanuel Macron ne porte pas tout à fait encore les habits du candidat, même s'il ne manque plus que la déclaration. Valérie Pécresse est un petit peu nouvelle pour les gens, même si elle existe depuis 30 ans dans la vie politique. Donc, lassitude à tous égards. Et pour l'instant, aucun candidat ou en tout cas programme n'a trouvé le moyen de réveiller un peu le camp français, le camp électoral.
Moi, j'ai pas le sens de la formule de Brice Teinturier. J'ai pas une formule aussi claire que la sienne.
Quelle belle pub pour les poils, hein, quand même.
Absolument. En tout cas, cette formule, elle accroche.
C'est vrai.
Mais il y a quelque chose, je pense qu'au-delà des différents candidats, les uns les autres, leurs propositions, leurs nuances, il y a quelque chose, je pense, qui fait aussi que la campagne n'arrive pas à se lancer. C'est que, est-ce que les Français qui sont là fatigués par deux ans de Covid, fatigués par... il y a eu avant la crise des Gilets jaunes, la réforme des retraites qui avait mobilisé beaucoup. Ouais. Est-ce qu'en fait, les Français attendent du bruit ou attendent au contraire une forme de calme? Et c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe, la primaire nationaliste entre Le Pen et Zemmour à travers ce prisme-là. C'est-à-dire que Très clairement, Marine Le Pen analyse que les Français, justement fatigués, épuisés, ont besoin de quelque chose de rassurant, de, je caricaturais, mais de doux, de féminin d'une certaine manière. De,
comme tu y vas, surtout pas de Philippe, rupture, dans les clichés.
Mais c'est elle-même qui le joue
elle
comme
le,
ça.
Elle le met en avant.
Voilà, c'est, en tout cas, pas de rupture, mais plutôt une forme de sérénité, voilà. Alors que Zemmour a théorisé lui-même qu'il faut être dans, une, dans la transgression, se faire entendre et dire les mots que d'autres n'osent pas utiliser pour pouvoir changer la France. Donc là, on le voit très clairement entre eux, il y a une vraie divergence là-dessus. Mais je pense que même au sein même du camp Macron, il y avait cette hésitation-là. Est-ce qu'il doit être pour simplifier dans, un peu comme Mitterrand en 88, la France unie dans une forme de continuité, le président doit être réélu, rassurant, père de la nation, ou est-ce qu'il doit être dans la transgression comme il l'était en 2017 En 2017, c'était lui-même qui était la transgression, la jeunesse, le côté hors parti, gauche et droite en même temps. Est-ce qu'il doit cliver à nouveau? Et on avait, donc, on a vu avec son interview au Parisien il y a quelques semaines, quand il dit, il parle du, il utilise le mot emmerdé, qu'il est, il a encore cette tentation un peu de cliver quand il sent qu'il a un intérêt à cliver.
Et c'est sa nature profonde.
Oui,
aussi,
absolument. Alors qu'en janvier, en décembre sur TF1, il y avait toute cette émission qui était beaucoup plus dans,
J'ai appris
dans la douceur.
J'aime les Français.
Et je pense que ça, c'est un des clivages de l'élection présidentielle. Mais est-ce que c'est cliver ou rassurer aussi. Est-ce que c'est une campagne ronde ou une campagne avec une campagne de quand je dis ronde au sens de de rondeur ou est-ce qu'une campagne tranchante?
Est-ce que tu as remarqué que c'est souvent le clivage des campagnes, et tu as tout à fait raison sur cette analyse, mais aussi de la conquête ou l'exercice
Absolument.
Du pouvoir. En fait, Marine Le Pen se projette déjà dans l'exercice du pouvoir parce que finalement, elle a conquis d'une certaine manière et a déjà convaincu une partie de son camp. Elle doit encore élargir, évidemment, mais c'est sa dernière campagne, c'est celle où elle doit convaincre qu'elle peut exercer le pouvoir. Alors qu'Éric Zemmour, qui vient d'arriver, est encore dans le constat.
Oui.
Et on sait bien que la magie des populistes, c'est d'être très fort sur le constat.
Oui.
Marine Le Pen a utilisé cette carte maintes fois lors des précédentes campagnes. Donc, il y a aussi cette différence de stratégie. Et alors, au sein du camp Macron, tu sais mieux que moi, je ne sais pas comment ils vont régler ce problème, peut-être un peu des deux, mais ce n'est pas évident, je trouve, quand on est déjà au pouvoir. Est-ce qu'il doit d'abord... Il exerce le pouvoir. Donc Emmanuel Macron a peut-être plutôt intérêt à être dans la disruption pour reconquérir ce pouvoir, puisqu'il montre au quotidien comment il l'exerce. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas quelle carte il doit activer pour entrer dans cette campagne.
Absolument. Et d'ailleurs, on ne sait pas exactement quand, puisque on nous avait dit ou on nous avait laissé entendre que ça pourrait avoir lieu là, quelque part, dans la première quinzaine de février, peut-être juste avant la levée des dernières restrictions, le 16 février. Et en réalité, on nous fait comprendre plutôt ces derniers jours que ça serait un peu plus tard. Est-ce que ça serait donc la troisième semaine de février? Est-ce que ce serait la quatrième semaine de février?
Presque un mois avant l'élection, c'est incroyable. Enfin,
ouais,
un mois et demi, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que s'il n'est pas... Alors, il faudrait que je fasse le calcul, je fais le calcul de tête, de mémoire, mais s'il n'est pas candidat dans les 15 jours, ça voudrait dire qu'il est candidat plus tard... enfin, je veux dire, par rapport au jour de l'élection, que François Mitterrand en 88.
Qui était déjà le record.
Qui était le record, enfin, à part le général de Gaulle en 1965. Donc,
mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas besoin d'être candidat, finalement, pour espérer l'emporter.
Ouais.
Il mise plutôt sur le fait de rester président jusqu'au bout, quasiment, ce qu'il a toujours mis en avant, d'ailleurs. On sera président jusqu'au bout.
Il y a quelque chose dont on avait beaucoup parlé, enfin, tu n'étais pas là l'année dernière pour ça, mais qu'on avait. Est-ce qu'il sait quand on était dans l'hiver 2020-2021 de glaciation Covid très très dure, on s'était dit collectivement, et quand je dis collectivement, c'était aussi entre journalistes chez nous ici, mais avec d'autres journalistes et même des gens qui analysent la société, des sondeurs, qu'on était un peu dans une forme de glaciation, c'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de neige qui était tombée. Et on ne savait pas exactement, ça avait l'air blanc et calme et posé, mais on ne savait pas exactement ce qu'il y avait sous la neige quand ça allait fondre.
Ou craquer. Tu sais que la glace
sous
la neige peut craquer d'un seul coup aussi.
Et c'est un peu, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on est un petit peu dans la période de dégel, ou même s'il fait encore froideur, mais de dégel de 2 ans de crise.
Oui.
Comment va la société française dessous? Est-ce qu'au fond, on retrouve la société française telle qu'elle était avant? Est-ce qu'elle est affectée, affaiblie, épuisée moralement par ces 2 ans de crise et qu'au fond, elle va dire, je ne m'intéresse pas à cette campagne parce que, voilà, tout ça. Ou est-ce qu'en fait, quand ça va déneiger, on va voir, d'ici l'élection, des ruptures qu'on ne devine pas clairement là? Et je pense à ça parce qu'on a vu 2 phénomènes d'opinion depuis l'été dernier qui ont été assez surprenants, enfin, surprenants, dont l'ampleur était surprenante. C'est-à-dire que On avait anticipé que Zemmour allait être candidat et on se doutait qu'il allait créer quelque chose. Mais passer en quelques semaines de 7 à 19 % dans certains sondages, c'était inédit, spectaculaire. Il est un peu retombé depuis, mais voilà, la vigueur de ce phénomène dans les sondages a été très frappant. Et dans une moindre mesure, on a vu un peu la même chose avec Valérie Pécresse quand elle a été désignée début décembre. Elle était relativement basse avant la désignation. On savait qu'elle aurait un petit effet désignation dans les sondages, mais il a été beaucoup plus élevé qu'on l'imaginait, puisqu'il y a même eu un sondage là pour BFM TV où elle a été donnée gagnante au second tour face à Emmanuel Macron. Ça s'est un peu tassé, mais on a vu dans ces deux phénomènes très différents, Zemmour-Pécresse, que quand il y a un phénomène d'opinion qui se cristallise, il est beaucoup plus puissant qu'on l'imaginait.
Ce qui pose la question à nouveau du dégagisme, qui est un des grands thèmes de 2017, dont Emmanuel Macron avait bénéficié. Et on s'est toujours demandé, à l'orée de 2022, est-ce qu'Emmanuel Macron va être victime de ce qu'il a porté au pouvoir en 2017 ? Ces deux fusées temporaires pourraient le laisser imaginer, mais on voit qu'il résiste bien quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'il est très solide dans les sondages. Il a repris un peu de points dans les sondages ces dernières semaines, après avoir un peu payé sa phrase sur emmerder. On voit que Marine Le Pen a colmaté la brèche et elle est plutôt solide à la deuxième place. Valérie Pécresse est passée plutôt à la troisième place, mais vraiment pas loin de Marine Le Pen. Et Zemmour est quelques points derrière, mais il peut encore relancer une dynamique. D'ailleurs, il progresse un peu dans plusieurs sondages ces derniers jours.
Et Jean-Luc Mélenchon, le roi du dégagisme, ça marche plus, ça marche moins en tout cas.
Oui, et en même temps, quand on regarde dans les sondages il y a 5 ans, à ce niveau-ci de la campagne, il était à peu près à ce niveau-là, à un ou deux points près. Et c'est après, notamment par des bonnes prestations télé au mois de février-mars, qu'il a progressé de façon spectaculaire en quelques jours, qu'il est passé de 9 à 19. Donc tout est possible. Et même dans le sens inverse, Anne Hidalgo n'a jamais été donnée très haut dans les sondages. Mais là, on est quand même... Enfin, elle est passée sous les 5, puis il y a 4, puis il y a 3. Là, il y a des sondages où elle était à 2. C'est-à-dire derrière Dupont-Aignan, derrière Lassalle, derrière le Parti communiste.
Au profit de Christiane Taubira, qui étonnamment bénéficie un tout petit peu dans les sondages, puisqu'elle passe cette barre fatidique des 5%, bénéficie d'un léger effet primaire populaire.
Oui, elle prend un peu sur Yannick Jadot, qui passe sous les 5%. Ouais. Alors, pour un candidat écolo, c'est pas si mal que ça, autour de 5%, puisque seul Noël Mamère a fait ça en 2002. Mais lui, son espoir, c'est d'être au-delà des 10.
Mais bien sûr. Et puis, quand on regarde les scores des Européens en Allemagne, un grand pays qu'on suit beaucoup, ça semble complètement dingue.
Mais oui, absolument. Donc, tu es contente de revenir ?
Très contente. C'est à la fois familier et un peu étranger. Vous avez fait du chemin depuis.
Absolument. Et demain, nous serons ensemble à Lille pour le grand meeting d'Éric Zemmour, qui a programmé une grande réunion publique avec plusieurs milliers de personnes, probablement 7 ou 8 000 personnes, quelques heures avant que Marine Le Pen tienne son premier grand meeting de campagne, sa convention présidentielle à Reims. Donc on va faire vivre ces deux événements sur l'antenne de BFM TV tout l'après-midi.
Pas vraiment le bienvenu dans la ville de Martine Aubry, je crois,
non,
Éric Zemmour.
Non, ça. Ça n'est pas... Voilà, elle va manifester le matin, mais on connaît Lille, non ?
Oui, très bien.
Je suis content de retourner à Lille.
Toi qui as été étudiant...
Mais toi aussi, non ?
À l'ESG. Ah, moi, c'était Strasbourg, au QEJ, une école publique.
Je croyais que tu étais. Je croyais que nous étions tous les deux d'anciens étudiants de Lille. Donc à demain à Lille, et puis on enregistrera d'ailleurs un épisode à Lille avec Loïc Besson qui suit la campagne de Marine Le Pen, qui sera à Reims, et avec Léopold Aubert qui suit la campagne d'Éric Zemmour. Salut.
Salut.